semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 24 janvier, ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Nous allons effectuer un nouveau voyage autour du monde et revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces 7 derniers jours. Cuba, Iran, Gaza, RDC, toute la richesse de la rédaction en une seule émission en quelque sorte. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. C'est Olivier Weber qui nous accompagne ce matin, grand reporter, prix Albert Londres, écrivain, il a même été ambassadeur itinérant. Bonjour Olivier Weber.
Bonjour.
Ambassadeur itinérant pour quelle raison, il faut le rappeler?
Ambassadeur itinérant principalement pour la société civile, donc les ONG, et pour la lutte en faveur des droits de l'homme auprès de l'ONU, principalement pendant presque 5 ans.
Alors surtout écrivain voyageur, on peut vous qualifier d'écrivain voyageur, grand reporter, mais écrivain aussi.
Oui, auteur de livres et de romans.
Et vous sillonnez le monde, vous étiez en Irak récemment?
Oui, l'Irak, l'Afrique du Nord, le Pakistan, les États-Unis et la côte ouest, ce qui est un peu plus calme évidemment que les pays qu'on a cités auparavant. Voilà, je continue pour les livres, les documentaires et puis les reportages de presse écrite.
D'ailleurs, vous avez commencé votre vie de voyage en Californie, me
semble-t-il? Oui, c'est vrai, j'étais étudiant, la fin de mes études ont été faites en Californie et c'est là où j'ai commencé à travailler pour la presse américaine, ensuite comme correspondant pour la presse française avant de partir en Afrique.
Alors vous êtes venu nous voir il y a quelques mois, on avait parlé du Cambodge à l'occasion de votre dernier livre et film d'ailleurs sur les impunis, ceux qui n'ont pas, les Khmers rouges qui n'ont pas été jugés au Cambodge. Et là je voudrais qu'on place au cœur de notre émission un livre qui date de 2013, donc récent, qui s'appelle La Confession de Massoud. Il faut tout de suite en dire un mot sur la démarche.
Oui, La Confession de Massoud, alors c'est le fameux commandant Massoud qui a été assassiné l'avant-veille des attentats du World Trade Center, 2001, donc le 9 septembre 2001. Et qui, dans ce livre, qui est d'abord un roman, parle à son fils, le jeune Ahmad, pour lui dire que il y a un islam des Lumières, il y a eu des âges d'or au pluriel de l'islam, et que les guerres que l'on voit de par le monde sont aussi des guerres à l'intérieur de ce qu'on appelle l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, forte d'1,5 milliard d'habitants. Et tout cet enseignement, à travers bien sûr des pérégrinations, des rebondissements dans ce roman, tous ces enseignements d'un père à son fils, c'est pour dire, voilà, il faut être tolérant, il faut lutter, il faut résister, non seulement dans notre vallée du Panjshir, en Afghanistan, non seulement en Afghanistan, non seulement en Asie centrale, mais dans le monde entier, pour le respect de la tolérance, et contre les sectarismes, et contre, bien sûr, le fanatisme de sinistre actualité aujourd'hui.
L'Afghanistan, vous connaissez bien aussi, d'ailleurs, il faut le préciser.
Oui, bien, j'y ai voyagé souvent, depuis plus de 20 ans, j'ai rencontré à plusieurs reprises d'ailleurs le commandant Massoud, mais pas simplement, j'ai séjourné avec les talibans pour faire un film qui est un documentaire qui est passé au cinéma, qui s'appelait L'Opium des talibans, mais également un livre qui s'appelait Le Faucon afghan, donc j'ai vécu avec eux, et évidemment, j'ai pu voir toute l'hypocrisie de ce mouvement qui se réclamait de la plus grande pureté religieuse, et finalement, on voit bien ce à quoi ça a mené aujourd'hui avec Al-Qaïda, qui était le protégé, on va dire, des talibans.
Alors l'islam va être au cœur, évidemment, de cette émission, mais écoutons d'abord, Olivier, tout de suite, trois voix dans l'actualité cette semaine. Elles en reflètent, en quelque sorte, la richesse, la diversité. Celle d'abord d'un nouveau citoyen français, Lassana Batili, qui a contribué à sauver, il y a 2 semaines, des clients pris en otage dans un magasin, le fameux Hyper Cacheur. Il a été naturalisé français au cours d'une cérémonie au ministère de l'Intérieur cette semaine. Écoutons-le.
Ce soir, je suis très fier et très ému aussi. Je souhaite remercier chaleureusement tous qui m'ont fait confiance, qui m'ont soutenu depuis toujours. Je pense mes parents, ma famille en France ou au Mali, dans le monde entier. La France, c'est un pays des droits de l'homme, c'est un pays d'accueil. Mon histoire, c'est même que plus les gens qui arrivent en France. Les gens me prennent comme un héros, mais moi, je ne suis pas un héros pour moi. Je suis Lassana. Je resterai moi-même, parce que mon cœur a parlé, qui m'ont fait agir toujours là. Il n'y a pas de question des communautés, telle ou telle religion. Je suis tellement content d'avoir double nationalité. Vive liberté, vive amitié, vive la solidarité, vive la France.
La voix touchante de Lassana Batili. Alors une autre voix maintenant dans l'actualité cette semaine, Olivier Weber, celle de Manuel Valls, c'est un autre genre, qui a parlé mardi d'apartheid en France à propos de la situation de certaines catégories de la population, apartheid et même ghetto, le Premier ministre mardi.
Oui, ces derniers jours ont souligné beaucoup des maux qui rongent notre pays ou des défis que nous avons à relever. Et à cela, il faut ajouter toutes les fractures, les tensions qui couvent depuis trop longtemps. et dont on parle uniquement par intermittence. Et après, on oublie, c'est ainsi, les émeutes de 2005, qui aujourd'hui s'en rappellent, et pourtant, stigmates sont toujours présentes. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique, qui s'est imposé à notre pays. La misère sociale, auquel s'additionnent les discriminations quotidiennes, parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l'on est une femme. Il ne s'agit en aucun cas, et vous me connaissez, de chercher la moindre excuse. Mais il faut aussi regarder la réalité de notre pays.
7 jours dans le monde.
Alors, quittons la France maintenant, traversons l'Atlantique et partons pour les États-Unis. Olivier Weber, mardi, le président Barack Obama a prononcé le traditionnel discours annuel sur l'état de l'Union devant le Congrès, donc parlant notamment du rapprochement historique avec Cuba.
Et en Cuba,
sur Cuba, nous mettons fin à une politique dont la date de péremption avait expiré depuis longtemps. Quand ce que vous faites ne fonctionne pas pendant 50 ans, il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Notre changement dans la politique envers Cuba peut mettre fin à un long héritage de méfiance dans notre hémisphère, éliminer une fausse excuse pour les restrictions, nous permettre de nous dresser pour les valeurs démocratiques et tendre la main de l'amitié au peuple cubain. Et cette année, le Congrès devrait se mettre au travail pour en finir avec l'embargo. Comme le pape François l'a dit, la diplomatie se bâtit à petits pas. Ces petits pas ouvrent un nouvel espoir pour l'avenir de Cuba. Et après des années en prison, nous avons l'immense joie d'avoir ramené Alan Gross à la maison, chez lui. Bienvenue, Alan.
Welcome home, Alan. We're glad you're here.
Alan Gross, qui est un Américain qui était détenu depuis 5 ans à Cuba, qui a été libéré en décembre et qui était l'invité donc du président Barack Obama au Congrès mardi. Une semaine d'actualité en compagnie d'Olivier Weber, c'est quand même une grosse affaire que ce rapprochement entre l'Amérique et Cuba.
Oui, très grosse affaire, évidemment à la fois pour la partie cubaine mais aussi pour la partie américaine, ouais. Dans l'intérêt des Américains mais aussi dans l'intérêt de la diaspora cubaine très présente évidemment dans le sud et dans le sud-est, en Floride en particulier. Alors, ce rapprochement met fin à une politique de sanctions la plus ancienne du monde contemporain, donc depuis plus de 50 ans, donc depuis 1962, la fameuse crise des missiles.
Cela remet en question le monde dans une nouvelle guerre.
Tout à fait, absolument. On était sur les sentiers de la guerre. Et en même temps, la politique de sanctions, on le sait, cela a été d'ailleurs rappelé aux Nations Unies à différentes reprises, peut être un petit peu contre-productive. Plus elle dure, ces sanctions économiques, politiques et autres, plus elle risque de se retourner, en fait, contre celui qui proclame la sanction. Et bien sûr, très souvent aussi, la victime ou les victimes sont les populations civiles avant les régimes politiques en place, comme on l'a vu pour l'Iran ou pour l'Irak sous Saddam et pour Cuba en particulier.
Alors l'actualité, c'est aussi la mort du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Là, oui. Ça concerne directement l'islam. Hein.
Absolument.
C'est une certaine façon de concevoir l'islam.
Oui, une certaine façon de concevoir l'islam, de le pratiquer, d'encourager aussi, cela a été le cas de la part de l'Arabie Saoudite, les mouvements fondamentalistes de par le monde. Il y a un rapport américain qui était en partie classifié, donc en partie censuré, on va dire, rester secret, dénonçant justement le fait qu'en 2001, l'Arabie Saoudite était impliqué en fait dans la préparation des attentats. Donc c'est très grave pour les États-Unis. Les États-Unis sont inquiets pour l'avenir de la famille royale du clan. L'Arabie Saoudite est quand même le premier pays producteur de pétrole. Deuxièmement, le prince héritier devenu roi, le roi Salman, est lui-même assez âgé. Il a pratiquement 80 ans. Le roi Abdallah en avait 10 de plus, 90 ans. On le dit, lui, le successeur malade. Et puis, troisième élément qui est peut-être encore plus inquiétant, l'armée. L'armée de l'Arabie Saoudite qui est assez bien équipée, assez bien entraînée, assez bien pourvue en moyens financiers, est totalement infiltrée et acquise pour une partie de ses contingents, donc à Daesh, donc qui menace le nord de l'Arabie Saoudite.
Alors là, on est à milieu du texte que vous mettez dans la bouche de Massoud, qui écrit à son fils, dans cette confession de Massoud, parce que ce texte, enfin Massoud tel que vous l'imaginez, j'espère qu'il était comme ça, lui prône l'islam de la tolérance et se met clairement en opposition avec les salafistes, le wahhabisme et l'Arabie saoudite.
Tout à fait, c'était tout le combat, toute la résistance menée depuis des années par le fameux commandant Massoud depuis le Panchi partir et depuis l'Afghanistan pour essayer d'endiguer la montée du fondamentalisme, non seulement dans son pays l'Afghanistan, mais aussi tout autour, au Pakistan, l'Asie centrale et plus loin. Et d'ailleurs, il avait été extrêmement déçu lorsqu'il était revenu de son séjour en France en avril 2001, donc on est à quelques mois des attentats et d'abord de sa mort, le 9 septembre, parce qu'il avait dit, mais les pays occidentaux et la France en particulier à l'époque ne comprennent pas l'enjeu ou les enjeux dont je suis finalement le héros ahuté ou le porte-parole ici. Et donc Massoud incarnait aussi cette figure un petit peu presque charismatique, presque romantique aussi, du résistant au-delà des frontières. Je crois que Massoud manque cruellement à l'époque. Et puis deuxièmement, son message est vraiment d'actualité. Il avait malheureusement raison. Encore une fois, c'est un roman. Je l'ai côtoyé à plusieurs reprises dans les maquis. Surtout, j'ai séjourné avec ces hommes et tous étaient convaincus évidemment de l'imminence de ce danger, non seulement les talibans, mais de manière plus générale, Al-Qaïda, c'est-à-dire les internationalistes, les militants fondamentalistes venant de l'étranger, qui sont souvent les pires, parce que totalement décontextualisés et voulant un million de morts à Bagdad, ou à Kaboul, ou à Damas, et ailleurs.
Parce que lui était l'ennemi juré des talibans. Hein.
Absolument, il fallait l'abattre. Et c'est pour ça qu'on l'a battu d'ailleurs, avec apparemment l'implication de services secrets de pays environnants. Et,
Pakistan, vous voulez dire?
Oui, on parle énormément du Pakistan. Mmh. Et quand il est mort le 9 septembre, le dimanche après-midi, c'était la 42e tentative d'assassinat. C'est-à-dire qu'il avait résisté à 41 autres. Et qu'il avait donc pu déjouer ce complot-là deux jours de plus, il aurait été en vie. Parce qu'après le 11 septembre, évidemment, la face du monde a changé.
Une semaine d'actualité.
Et Olivier, il nous faut revenir maintenant sur les manifestations contre la une du dernier numéro de Charlie Hebdo dont nous parlions samedi dernier avec Claude Angéli du Canard Enchaîné. Manifestations au Pakistan, en Tchétchénie avec l'appui du pouvoir en place, au Niger, nous en reparlerons tout à l'heure, et aussi plus classique, dirons-nous, en Iran. Reportage lundi à Téhéran de notre correspondant Tiavosh Ghazi.
L'ambassade de France doit être fermée. Mort gouvernement fasciste français. Ils étaient plus de 2000 personnes à manifester pour dénoncer la nouvelle caricature du prophète Mahomet par l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Pendant deux heures, les manifestants ont lancé des slogans contre la France, mais aussi pour exprimer leur amour pour le prophète Mahomet. L'un des participants a dénoncé un complot planifié.
Cette insulte a été planifiée par l'hebdomadaire français contre le prophète Mahomet avec le soutien du gouvernement français. Les États-Unis l'ont soutenu ouvertement aussi. Nous nous plaignons du gouvernement et de la diplomatie iranienne pour avoir rencontré juste après cette insulte le ministre français des Affaires étrangères.
Le ton était en effet très dur à l'égard de Mohamed Javad Zarif, déjà critiqué pour les négociations nucléaires. Les manifestants lui reprochent d'avoir maintenu sa visite à Paris jeudi dernier pour rencontrer le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, seulement deux jours après la publication de cette nouvelle caricature.
Autre manifestation contre Charlie Hebdo, cette fois à Gaza, oui, dans la bande de Gaza, correspondance régionale de Muriel Paradon.
Des menaces de mort contre les Français, des drapeaux tricolores brûlés. La manifestation devant le centre culturel français de Gaza a été particulièrement violente. 200 hommes, des islamistes radicaux, protestaient contre la publication par Charlie Hebdo d'une caricature du prophète Mahomet. Certains ont agité la bannière noire de l'organisation de l'État islamique, d'autres ont brandi les portraits des auteurs des attentats contre l'hebdomadaire satirique et contre l'épicerie cachère, attentats qui ont fait 17 morts à Paris il y a moins de deux semaines. C'est la première fois qu'une telle manifestation a lieu à Gaza depuis 2007 et la prise du pouvoir par le Hamas. Le Hamas a tenu pendant des années les salafistes à l'écart, mais ces derniers refont surface depuis la guerre de l'été dernier. Quant au centre culturel français, il est fermé depuis le mois d'octobre. Il a été incendié deux fois, des attaques d'origine criminelle. Récemment, son mur d'enceinte a été recouvert d'un slogan promettant l'enfer aux journalistes français.
Suite d'une semaine d'actualité, nous allons donc parler de ces manifestations contre Charlie. Un million de manifestants avec le soutien du président tchétchène Kadyrov lundi, qui était jour chômé carrément en Tchétchénie. Ces manifestations inspirent chez vous un commentaire. Je voudrais citer deux messages d'auditeurs tout de suite. Il y a Tierno Ibrahima en Guinée qui nous écrit « J'ai beaucoup lu le Coran, mais je n'ai jamais vu dans un verset où Dieu ou le prophète Mahomet a appelé les humains à s'entretuer ». Ça, c'est une réaction de Tierno Ibrahima en Guinée. Et Jean-Luc en RDC dit, lui, moi je suis très catholique, très pratiquant, je respecte la religion musulmane, je ne soutiens pas les caricatures du prophète. Et il se pose une question, la liberté peut-elle exister sans limite ?
Oui, alors ça pose plein de questions et philosophiques aussi, tout à fait d'interprétation de l'islam, et c'est tout le but de ce livre, La Confession de Massoud, qui est sous forme romanesque, cette injonction à ce que l'islam se réforme absolument de l'intérieur, fasse l'exégèse en quelque sorte des textes sacrés, des textes saints, du Coran et des hadiths. Et évidemment, on peut faire dire ce qu'on veut aux trois religions du livre, à l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament aussi des chrétiens, à la Torah des juifs et au Coran des musulmans. Et il suffit aussi d'adapter les textes. Or, la lecture du Coran par certains sectaires fanatiques, fondamentalistes, je pèse mes mots, est totalement contraire aux principes, aux valeurs de l'islam.
C'est-à-dire qu'on, qui prône plutôt la tolérance.
Tout à fait, la tolérance, l'œcuménisme aussi, une certaine entente entre les peuples, et non pas la conversion par la force, et surtout pas, encore moins, l'assassinat. Et j'en viens à ce que j'entendais tout à l'heure de la part de Lassana Batili, donc le jeune nouveau franco-malien, c'est désormais français-malien.
Bienvenue en France.
24 ans. Il a des paroles extraordinaires, des paroles d'abord simples, modernes, je ne suis pas un héros, etc. Et universel. Moi, ça me fait froid dans le dos. J'ai écouté 10 fois. Et lui-même dit, mais ce n'est pas ça être musulman. Au contraire, j'ai sauvé des hommes et des femmes, juifs ou pas juifs, peu importe, musulmans ou pas musulmans, parce que ce sont des êtres humains. Nous sommes tous frères. Et ce sont des paroles qu'il faut réentendre et peut-être aussi faire entendre au Niger, en Tchétchénie ou ailleurs, parce qu'évidemment
ça c'est quand même frappant. Ces manifestations à Gaza ou en Tchétchénie. Au Niger, on en parlera tout à l'heure. Oui. Une vague de fond quand même.
Voilà, une vague de fond. France, et c'est là tout à fait où l'effet nouveau par rapport aux premières affaires, des premières caricatures dans les années 2000 ou 2005. Oui. Les journaux ou le journal danois et Charlie Hebdo déjà, c'est que maintenant vous avez une caisse de résonance. On est dans une partie de ping-pong et certains islamistes fondamentalistes ne demandent que cela, c'est-à-dire avoir un retour à l'instant T de ce qui se passe au niveau des caricatures de par le monde. Et bien sûr, c'est d'instrumentaliser, bien sûr, c'est détourner. Et donc, dans cette partie d'aller-retour, cela devient compliqué parce qu'avec les instruments sociaux, les réseaux sociaux, Internet, c'est très facile.
Qui fait la différence.
Tout à fait. Et c'est très facile d'instrumentaliser, de détourner les paroles. Vous avez parlé du Niger tout à l'heure, on va en reparler, on va en dire deux mots tout à l'heure, mais c'est la première fois qu'on incendie des églises et qu'on s'en prend aux intérêts français. Donc c'est un cas parmi tant d'autres. Vous avez parlé aussi de Gaza, du Niger et du Pakistan. Les messages envoyés sont très inquiétants pour l'islam, principalement.
Alors vous rappelez, enfin Massoud rappelle sous votre plume, Olivier Weber, que en 1492, les juifs expulsés d'Espagne, à cause d'Isabelle la catholique, se sont réfugiés chez les musulmans, en terre d'islam.
Absolument, en terre d'islam, accueillis par le sultan ottoman à Constantinople, la nouvelle Istanbul, depuis 40 ans, enfin depuis 1453, et donc les sultans ont fait venir des juifs, des chrétiens, catholiques, orthodoxes, des grecs aussi, et c'était une tradition d'accueil de l'islam nomade ou de l'islam assis, puisque là, depuis 1453, l'Empire ottoman s'était arrêté sur le détroit du Bosphore. Et pour revenir à Massoud, lui-même a côtoyé des juifs, des chrétiens, des musulmans, et a accueilli d'ailleurs parmi les premiers humanitaires au monde, qui étaient d'ailleurs les informateurs, les journalistes en fait, au temps de ce qu'on appelait le djihad, à bon escient, la guerre contre l'occupant et contre les soviétiques. Les premières personnes qu'il a accueillies, qui étaient des médecins, étaient des femmes françaises, des French doctors françaises. Donc ça vous donne un petit peu l'idée du côté éclairé de l'individu.
Lui a montré par rapport aux femmes qu'il avait une autre vision de l'islam. Hein.
Oui, absolument, une vision différente.
Il a été invité au Parlement de Strasbourg grâce à ça, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, deux choses. D'une part, il y a d'autant plus de légitimité, lui, Massoud, à parler d'un islam de tolérance et d'ouverture, que lui-même a été, lorsqu'il avait 20 ans et quelques, frère musulman. Il s'est écarté du fondamentalisme. Il est devenu démocrate, musulman éclairé, etc. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de cette vallée du Panchir, assez longue, 100 km de long, sur quelques kilomètres de large, ça dépend des endroits, il a voulu en faire une sorte de laboratoire, du Daoulat, de la République islamique au bon sens du terme, on va dire, avec l'éducation, y compris l'éducation pour les femmes, avec un département médical et sanitaire, des dispensaires pour les filles, pour les femmes, et pas simplement pour les hommes, une administration préfectorale, etc., etc. Donc il y avait une sorte de laboratoire des idées, mais aussi de l'action politique, depuis le Panchir, et malheureusement,
qui en gênait beaucoup, apparemment.
Qui en gênait beaucoup, tout à fait.
Olivier Weber, on va marquer une pause, et on se retrouve dans 3 minutes, après un point sur l'actualité de ces dernières heures. À tout de suite. Merci pour ces informations. On se retrouve avec notre invité, Olivier Weber, pour revenir sur 7 jours d'actualité avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Olivier Weber, grand reporter, écrivain. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique, en RDC et au Niger notamment. Rendez-vous bien sûr avec vos messages. Mais pour le moment, restons en France et revenons sur la naturalisation de Lassana Bathily, qui était en France quand même depuis 2006, il faut le préciser. L'homme qui a sauvé des otages dans le magasin Hyper Cacher à Paris, nous l'écoutions tout à l'heure et il vous a marqué, semble-t-il, Olivier Weber, comme beaucoup d'auditeurs. Sylvie Coffi.
Ministre, parlementaire, rescapé de l'épicerie Cacher, représentant des différentes confessions religieuses, tous sont venus accueillir dans la citoyenneté Lassana Bathily, devenu français.
Bienvenue, bienvenue en France.
Pour cette cérémonie, le Premier ministre Manuel Valls s'est joint au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Lassana fait partie de ces êtres qui, dans leur extrême modestie, ne semblent pas conscients de leur propre part d'héroïsme. Appelé par le président de la République, félicité par le secrétaire d'État américain John Kerry, il a répété, je le cite, « Je ne vais pas prendre la grosse tête ».
Très ému, Lassana Bathily dit avoir agi avec son cœur.
Les gens me prennent comme un héros, mais moi je ne suis pas un héros pour moi. Je suis Lassana, je resterai moi-même.
Proche de Lassana Bathily, Michel Royer mène des actions de développement à Caille, dans le village où il est né. Il attend encore plus de la République.
Le geste qu'il a fait est tellement beau, tellement fort dans la période d'horreur qu'on a connue. Je trouve que la Légion d'honneur, c'est une très bonne idée.
Lassana Bathily, le héros de la prise d'otage, est aujourd'hui français et malien.
7 jours en France.
Avec de nouveaux moyens pour la lutte contre le terrorisme, près de 3000 emplois créés et 736 millions d'euros débloqués pour les services de renseignement et pour l'armée, suppression en quelque sorte de 7500 postes. Olivier Four.
Près de 9000 hommes en opérations extérieures, 10500 mobilisés sur le territoire national. L'armée française s'est subitement retrouvée soumise à une très forte tension. À ce rythme-là, nous étions très inquiets sur notre capacité à tenir nos engagements, assure-t-on au ministère de la Défense. Le président de la République a tranché. 7500 postes seront finalement sauvegardés sur les 26 000 qui devaient être perdus sur la période 2015-2019. Ça va nous permettre de retrouver un peu d'oxygène, dit-on à la Défense. Et ça commence dès 2015, avec 1500 postes de moins que prévu. Décision du président, l'armée devra être en mesure d'aligner 10 000 hommes pour des missions de protection intérieure pendant une durée d'un mois. Cela dit, tout cela aura un coût. Ces 7500 postes ne seront pas absorbables dans le budget tel qu'il a été chiffré dans les années à venir, c'est-à-dire au moins 31,4 milliards. De toute façon, le président de la République a déjà demandé l'actualisation de la loi de programmation militaire. En clair, un an seulement après son entrée en vigueur, il va falloir réécrire la LPM en tenant compte des nouvelles menaces qui pèsent sur la France, laisse-t-on entendre dans l'entourage de Jean-Yves Le Drian.
Une semaine d'actualité, donc on a retrouvé notre ami Lassana Bathily. Je voudrais donc préciser qu'il était en France depuis 2006 et qu'il avait fait sa première demande de naturalisation en 2011. Donc pour lui c'est quand même une vieille affaire et tout s'est débloqué tout d'un coup. Tant mieux pour lui, bien évidemment.
Oui, encore une fois, il est tellement humain, tellement modeste, tellement humble et tellement porteur, ce qui n'est pas du tout antinomique, au contraire, de valeurs universelles, il l'a rappelé, à travers d'ailleurs sa confession de musulman, mais pour les autres, œcuménique, tolérant, un pont entre les civilisations, donc je trouve ça extraordinaire, cette jeunesse, mais aussi cette maturité, chapeau, j'aimerais lui serrer la main.
Et dans votre livre, La Confession de Massoud, dans cette lettre que Massoud écrit à son fils, hein, c'est un roman, enfin c'est vous qui écrivez, vous parlez à un moment, Lassana m'y fait penser, au djihad de l'âme.
Oui, absolument, parce qu'en fait, le vrai djihad, c'est pour ça que le mot djihadisme et djihadiste est totalement détourné de son principe. Le vrai djihad, c'est comme le djihad, c'est l'effort intérieur, c'est aussi une sorte d'accomplissement spirituel. C'est le mot d'ailleurs de Jamel Debbouze qui dit « Mais Dieu est en nous, Dieu on doit le garder aussi d'une manière intime en fait, au fin fond de nous, et non pas l'exploiter à l'extérieur, et non pas revendiquer des actes barbares, a fortiori, en son nom, etc. Et le djihad, effectivement, enfin tel qu'il doit être pratiqué, découlant des textes saints de l'islam et des hadiths, c'est une démarche intérieure, effectivement, un effort. Et ça c'est extrêmement important, et on l'a totalement détourné en tant que guerre contre l'autre, guerre contre les étrangers, guerre contre le pays voisin, et même guerre, je pèse mes mots, avec Daesh et Al-Qaïda, à l'intérieur de l'islam. Et c'est peut-être là aussi où le défi doit être posé pour les responsables religieux musulmans.
Alors j'ajoute, dans ce chapitre terrorisme en France, que 4 hommes soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique à Mehdi Koulibaly, qui a tué donc la policière et 4 personnes au magasin Hyper Cacher, ont été mis en examen, donc peut-être un réseau.
Oui, il y a un réseau. Moi, je suis très inquiet, on va dire, connaissant certains de ces pays dont sont originaires les soi-disant djihadistes, on va dire fondamentalistes et terroristes, Pakistan, Irak, Tchétchénie, Syrie et autres. C'est que vous avez 3 éléments, 3 piliers dans cette nouvelle guerre. Vous avez donc la montée en puissance de Daesh, sur une structure étatique, contrairement à ce que disent certains dirigeants, on est dans un État islamique ou un embryon.
Alors c'est une organisation qui s'appelle l'État islamique, mais ça ressemble de plus en plus à un État.
Absolument, avec une volonté de structure étatique. Un territoire qui va diminuer ou s'agrandir, peu importe, pour l'instant c'est quand même...
Il est contenu pour la
France. Oui. Absolument, un cheval sur la Syrie et l'Irak. Donc avec une administration judiciaire, religieuse, administrative, peut-être éducative demain, etc. etc. Deuxième pilier, le lien avec des réseaux dormants en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde occidental et ailleurs dans le monde, qui ne sont surtout pas des réseaux de loups solitaires. Moi, je récuse
ouais, c'est le mythe du loup solitaire.
On est dans des réseaux dormants, structurés, opérationnels. Il suffit qu'ils agissent simplement 2 jours par an, cela suffit totalement. Ce sont quelquefois des natifs du pays dont on parle, quelquefois des naturalisés du pays en question.
Parce qu'il n'y a pas simplement que les Français qui vont faire le djihad Irak ou en Syrie qui reviennent. Il peut y avoir aussi des éléments extérieurs
absolument. Et le troisième élément, le troisième pilier, qui est un élément non plus virtuel, mais logistique et militaire, ce sont les réseaux sociaux et Internet, qui permet de réactiver des messages, qui permet de recruter, qui permet de faire appel à des ressources financières et bien sûr à des fins propagandistes. Et les 3 en même temps, donc l'État ou l'embryon d'État, le pseudo-État, deuxièmement les réseaux dormants, troisièmement Internet, réseaux sociaux, fait qu'on a une sorte de parentèle nouvelle qui est extrêmement dangereuse, explosive, et il faut s'attendre à quelques actions encore dans les mois qui viennent.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons cette fois, Olivier Weber, pour le Niger. 4 jours de violence religieuse après la publication du dernier numéro de Charlie Hebdo. Au moins 10 morts à Niamey et à Zinder. À la fin de la semaine dernière et au début de cette semaine-ci, Christine Muraté.
Des hommes à moto, des jerrycans d'essence, chaque église et centre évangéliste systématiquement saccagés aux 4 coins de Niamey. Personne n'aurait pu imaginer une pareille déferlante antichrétienne au Niger. Au Niger, les chrétiens représentent à peine 1% de la population, une communauté sans histoire totalement intégrée aux côtés de la majorité musulmane. Les chrétiens ont-ils fait les frais d'un amalgame rapide avec l'Occident ? Possible, reconnaît un chercheur nigérien spécialiste de l'islam, qui pointe la montée d'une tendance radicale wahhabite anti-Occident au Niger. Le mode opératoire, estime ce chercheur, ressemble à Boko Haram à ses débuts. Mais pour nombre d'observateurs à Niamey, les chrétiens sont les victimes collatérales d'un tout autre enjeu beaucoup plus politique. La présence du président Issoufou à la manifestation républicaine de Paris le 11 janvier n'est pas passée. Surtout son « Je suis Charlie » lancé sur nos ondes. Une petite phrase qui a pris un tour de provocation insupportable pour une majorité de Nigériens après l'apparition des nouvelles caricatures du prophète dans Charlie Hebdo. L'opposition accuse le pouvoir de rouler pour la France et de sous-estimer son peuple. Le pouvoir accuse à mots couverts l'opposition d'avoir soufflé sur les braises déjà brûlantes et d'avoir maintenu dimanche une manifestation au lendemain des violences antichrétiennes. Plusieurs responsables de l'opposition sont sous les verrous. Une partie de la presse dénonce les violations de la liberté d'expression. Le tout à moins d'un an de la présidentielle.
Niger qui redouble de vigilance face à Boko Haram, le pays est, rappelons-le, voisin du Nigeria, 350 km de frontières communes. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial Nicolas Champeau, il a suivi une patrouille de soldats nigériens qui a fait face à des combattants de Boko Haram.
On fait les 2 positions et on revient vous voir après.
La patrouille répartie en 2 colonnes a gravi à pied le chemin de sable sur la berge opposée au bord de l'eau à moins de 50 mètres, 3 combattants de Boko Haram. Kalachnikov en bandoulière, leur chef, djellaba noir luisant, harangue des soldats nigériens stoïques.
Et de l'autre côté, nous on est de ce côté.
Les soldats nigériens et les combattants insurgés se regardent en chien de faïence. Un des drapeaux de Boko Haram flotte dans le vent. Nous sommes ici depuis quelques minutes. Pour le moment, tout se passe bien, pas de coup de feu. Ok, Idrissa ?
Quand même vraiment, c'est dans quoi ?
Et là, ils nous menacent verbalement, c'est ça ? Bon, on peut se retirer?
Oui.
Je fais marche arrière?
Oui, vous faites marche arrière.
Un épisode tendu, mais le capitaine du détachement militaire de Bosso n'est pas impressionné outre mesure.
C'est ce que nous vivons tous les jours. Et nous menons des patrouilles. Bon, bien évidemment, nous trouvons les Boko Haram en face de nous. Ils leur arrive de tirer à l'air quand nous arrivons, ou bien quand nous nous retirons, et puis nous rebroussons le chemin.
Le colonel Salahou Barmou, qui commande la zone du sud-est du Niger, prend la menace Boko Haram très au sérieux.
Il y a très souvent des incursions d'éléments armés de Boko Haram dans le but de recruter, dans le but de se ravitailler, dans le but de faire des dépôts d'armes pour éventuellement de futures opérations, pourquoi pas, en territoire nigérien.
Boko Haram n'a pas franchi le Rubicon. Les autorités militaires du Niger font état néanmoins de plusieurs échanges de tirs à bout portant.
Nous le disions samedi dernier, le Tchad, autre pays voisin, a décidé d'intervenir militairement en envoyant des blindés au Cameroun pour l'aider à lutter contre Boko Haram. C'est urgent. Les islamistes ont en effet une nouvelle fois attaqué dimanche des villages dans le nord du pays, du Cameroun donc. Correspondance de Polycarpe et Somba lundi.
Arrivés par centaines tout le matin comme ils en ont pris l'habitude lors de leurs incursions, les assaillants de Boko Haram se sont heurtés à la résistance des forces de défense camerounaises. Dans leur mouvement de repli, les djihadistes vont essuyer leur colère sur les villages environnants. Saccages, pillages et enlèvements s'en suivront, deux villages seront complètement détruits. Au moment des comptes, 80 personnes, hommes, femmes et enfants, manqueront à l'appel, kidnappés et amenés de force par les éléments de Boko Haram dans leur retraite. Trois personnes ont également été retrouvées mortes. La traque lancée par les militaires camerounais permettra néanmoins de faire libérer 24 otages, selon une source militaire qui s'est confiée à RFI. Ces événements sont intervenus alors que les militaires tchadiens commençaient à peine leur déploiement en territoire camerounais. Appelés en renfort par Yaoundé dans sa lutte contre la secte islamiste, ces soldats avaient reçu la veille un accueil chaleureux de la part des riverains des localités traversées par leurs longues colonnes de blindés et autres véhicules militaires.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, et là nous continuons avec le fondamentalisme, l'islamisme, quoique l'islamisme n'est pas un mot très adapté quand même, hein. Il faudrait plutôt parler de fondamentalisme.
Fondamentalisme d'une part, puis deuxièmement avec Boko Haram et consorts, on est vraiment dans le sectarisme, dans la secte, enfin vraiment dans le mouvement sectaire, totalement délirant.
Puissant.
Avec Sakaou, le chef, qui s'étend absolument et qui déstabilise totalement. Alors d'une part, par l'extension de Boko Haram, Boko Haram s'est emparé de cette ville, s'appelle Baga, au nord-est du Nigeria, sur le lac Tchad. Le Tchad est en face, évidemment. N'Djamena est à moins de 200 kilomètres. Donc tous ces états, Tchad, Niger, Cameroun, environnants, sont impactés par Boko Haram. Et puis deuxièmement, Boko Haram fait des émules, en quelque sorte. Il y a des, on l'a vu avec les émeutes à Zinder et à Niamey, il y a des organisations qui s'en emparent, qui se localisent, on va dire. Et puis, troisièmement, l'armée nigériane, qui est censée être une armée extrêmement bien dotée.
D'un pays Nigeria, puissant, pays d'un puissant, pays africain
tout
puissant.
À fait, absolument. Et qui producteur de pétrole et une armée totalement corrompue. Ouais. On est obligé de faire appel au Tchad pour aller ferrailler contre Boko Haram au Cameroun, etc.
Parce que ça fait des années que Boko Haram existe. Hein.
Tout à fait. Et on l'a laissé faire. Malheureusement, je parle des pays d'Afrique sahélo-saharienne, mais aussi de la part des pays occidentaux. On a fermé les yeux, on s'est dit, bon, c'est un mouvement tenu par un fanatique totalement fou, psychopathe, s'appelle Sakaou. Mais en fait, il fallait faire attention beaucoup plus tôt, parce que là, la menace est là, elle est réelle. Il y a les prises d'otages, il y a des tueries de population civile. On l'a vu à Baga. À Baga, on ne sait pas, il y a peut-être 1000-2000 morts, personne ne sait. Et en plus, c'est un axe vital pour l'approvisionnement logistique et alimentaire du Tchad. Donc, on est en train de déstabiliser toute la région, et on est en train de créer une sorte de laboratoire, là aussi, du fondamentalisme.
Ce qui a frappé Olivier Weber, c'est la virulence des manifestations au Niger.
Oui, au Niger. Absolument, au Niger, où c'est la première fois où la France est autant conspuée. Deuxièmement, pays qui est non seulement à majorité musulmane, mais qui comporte quand même une forte proportion de chrétiens, oui. Alors des binationaux, des franco-maliens.
Dont les églises ont été brûlées à Niamey.
Les églises ont été brûlées à Niamey, donc c'est vraiment un pas nouveau qui a été franchi. On est presque dans un effet de bascule qui est effectivement inquiétant pour beaucoup de Nigériens et pour l'ensemble des pays environnants.
Avec toujours cet objectif, Olivier Weber, qu'il s'agisse de l'État islamique, de l'organisation de l'État islamique ou de Boko Haram, cette ambition de créer un califat.
Oui, absolument, le califat, et puis il y a même un phénomène
vu par ces sectes.
Tout à fait, vu par la secte, vu par ces sectes, en fait, qui commencent à se délocaliser non seulement au Nigeria, mais ailleurs. Mais alors, le modèle, c'est quoi? C'est presque un mimétisme, c'est Aboubakar al-Baghdadi, qui serait maintenant exfiltré de Raqqa en Syrie, à Mossoul, en Irak, et qui s'est autoproclamé fin juin, donc deux semaines, on va dire, après la chute de Mossoul, le 12 juin 2014, calife de ce califat. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le 12 juin 2014, donc Mossoul, deuxième plus grande ville d'Irak, au nord de Bagdad, 3 millions d'habitants à l'époque, il y en aurait à peu près 1 million maintenant, soit tombé lors d'une attaque de moins de 1000 djihadistes de Daesh. Pourquoi après une opération longue de, on va dire, 8 ans, de 2003 à 2011, officiellement, l'armée et les pouvoirs américains qui ont engagé au moins 700 milliards. Ouais. Chiffre de dollars, 700 milliards de dollars pour lutter contre le fondamentalisme en Irak, et le chiffre du Congrès maintenant ça serait 2000 milliards. Pourquoi l'armée américaine n'a pas été capable d'endiguer cette montée en puissance de Daesh? Et évidemment c'est la prise d'une ville très importante, il y aurait 300 millions de dollars au moins qui auraient été trouvés dans les sous-sols de la banque centrale de Bagdad à Mossoul, 1 milliard de dollars d'armement, etc., etc. Donc évidemment cela donne des ailes à Boko Haram et à d'autres mouvements, y compris à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI ou ACPA au Yémen et ailleurs. Le Yémen est en train de basculer aussi là. C'est très
inquiétant. Alors, il faut signaler dans l'actualité cette semaine la déstabilisation du pays, qui n'a pas de gouvernement, qui n'a plus d'État, mais qui a toujours Al-Qaïda, en revanche.
Tout à fait, qui a toujours Al-Qaïda. Donc, c'est une milice houthiste originaire de cette branche du chiisme, absolument, qui s'appelle le zadisme, qui s'est emparée de facto du palais présidentiel et de la résidence du chef de l'État. Et donc, il y a un coup de force, il y a un coup d'État, on ne sait pas comment l'appeler, mais c'est extrêmement, évidemment, grave pour le Yémen. Et deuxièmement, ACPA est en terrain favori, puisque comme il y a une déliquescence Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, comme il y a une telle déliquescence de l'État, de l'armée, etc., elle peut prospérer au Yémen.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons cette fois, Olivier Weber, pour la République démocratique du Congo, la RDC. Kinshasa a en effet connu des journées de violence entre manifestants de l'opposition qui accusent le président Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir et la police, alors que l'opposant historique Étienne Tshisekedi a lancé depuis Bruxelles un appel à chasser ce qu'il appelle un régime finissant. Plus de 40 morts selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Reportage mardi de notre correspondante Léa Lisa Westerhoff.
Manifestants bloqués, des dizaines de policiers verrouillent toutes les voies d'accès au Parlement. Devant, derrière, dans les rues adjacentes, tout est bloqué. Albert Fabrice Bouela, élu de l'opposition, en rage.
Il y a 2 ans, avec la francophonie, il y a eu plus de 40 chefs d'État ici. On n'a pas eu ce déploiement de militaires. Alors qu'on laisse la liberté s'exprimer, qu'on nous laisse nous exprimer jusqu'au bout.
Le mot d'ordre, c'était la loi électorale. Mais très vite, c'est le président Joseph Kabila qui cristallise la colère.
Il n'y a rien qui marche. En tant que jeunes du pays, Kinois et Congolais, nous voulons tout simplement que Kabila puisse pas se présenter. Là, nous sommes d'accord.
Très vite, ils sont 200 dans l'avenue principale. L'atmosphère se tend. De chaque côté, des policiers anti-émeutes, casques et matraques prennent le groupe en tenaille. Ils dégainent les lacrymogènes quelques minutes plus tard. Ils tirent. Les manifestants, eux, jettent des pierres. Un peu plus loin, à 4 km de l'université, même scénario, mais plus violent. Des manifestants jettent des pierres sur tout ce qui passe, sans travail, empêchés de manifester. Leur colère est confuse, mais réelle. Là encore, affrontement, des pillages de magasins sont signalés. La police fait place nette. À 18h, le corps d'un jeune homme tué au cours d'un pillage traîne encore dans la rue.
La situation en RDC, à Kinshasa notamment, est évidemment à suivre dans nos journaux. Suite et fin d'une semaine d'actualité en Afrique avec enfin une bonne nouvelle, du moins on l'espère que ça va durer, la fin de l'épidémie d'Ebola au Mali, correspondance mardi de Serge Daniel.
La première personne infectée, une fillette, venait de la Guinée voisine et dès l'annonce de sa mort à Kaï, dans l'extrême ouest du pays, un branle-bas s'est installé et une équipe du ministère malien de la Santé débarque sur place. L'Organisation mondiale de la Santé, l'OMS, envoie également du renfort. Les personnes avec qui la fillette a été en contact à Bamako et à Kaï sont mises sous surveillance sanitaire et une grande campagne de sensibilisation est déclenchée. Les gels antibactériens inondent le pays. Plus personne ne se donne la main. On se salue plutôt à l'Asiatique, les deux mains fermées. Subitement, une seconde filière de contagion apparaît dans une clinique de Bamako. L'intéressé déjà malade est également venu de la Guinée. À son contact, un infirmier malien meurt. En remobilisation, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta nomme un conseil spécial anti-Ebola, il se rend lui-même à la frontière guinéenne pour une campagne de sensibilisation. Un cordon sanitaire y est installé. Ça a donné des résultats. Aujourd'hui donc plus de cas d'Ebola au Mali. Mais il faut rester vigilant, comme l'affirment deux autres hommes clés du dispositif anti-Ebola. Il s'agit de Ousmane Kone, ministre malien de la Santé, et de Ibrahima Sosefal, l'envoyé à Bamako de l'ONU pour la lutte contre la maladie.
m'écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Nous reprenons nos dédicaces après deux semaines d'interruption. Un bonjour par exemple à Kobo Boris à Ouagadougou. Bonjour à Alexis, ancien étudiant de Bangui qui vit aujourd'hui en France à La Roche-sur-Yon. Bonjour à Boubacar à Abidjan, à Mahamat à N'Djamena. Un salut à Elamine à Dakar, à Kevin à Bobo Dioulasso, à Fousseni à Conakry. Enfin un bonjour à Mahamat Chérif à Moundou au Tchad. Je ne manque jamais votre émission, écrit-il. Merci Mahamat. Salut à tous mes amis et à ma mère, elle est à Abéché, toujours au Tchad.
Une semaine d'actualité.
Et je n'oublie pas dans le lot Alain, qui est le président du club RFI à Bukavu, évidemment, qui nous a écrit. Ça vous fait sourire, hein, ces auditeurs qui nous écrivent.
Oui, parce que c'est génial, c'est RFI. Moi, j'écoute tous les matins. Je n'écoute pas que RFI, mais je commence ma journée avec RFI. Et j'entends très souvent les auditeurs qui parlent dans les émissions, absolument. Puis alors, tout votre réseau de correspondants, on en a entendu quelques-uns. Et je reconnais, franchement, leur voix sans connaître leur nom.
Voilà. Ça devient des amis presque.
Ça devient presque des amis. Puis c'est beau, c'est la francophonie, c'est RFI, c'est la famille de RFI.
C'est trop.
Bonjour à tout le monde.
Alors un mot sur la RDC, Olivier Weber, c'est un nouvel exemple de pays qui a envie de changer, de passer à autre chose, de changer de régime.
Oui, absolument, avec évidemment cette volonté de la part de Joseph Kabila, absolument, à préserver son pouvoir, enfin le prolonger plutôt contre la constitution existante. Le Sénat donc a mis entre parenthèses ce projet, mais évidemment la RDC est un pays extrêmement important, c'est un pays riche potentiellement, c'est un pays producteur de matières premières, de pierres précieuses, d'uranium, etc. Simplement, il y a une corruption énorme. Deuxièmement, il y a une étendue de la surface qui est assez importante.
Des sociétés étrangères qui exploitent ces mines.
Absolument, il y a ça. Et puis troisièmement, toute la partie est, évidemment, avec les milices guerrières, il y a une sorte d'auto-reproduction de la guerre. On crée des milices, on crée la guerre pour justifier l'appropriation de mines de coltan, de cassitérite, de métaux rares, etc., etc., quoi. Mais c'est un pays qui a quand même une flamme, et on voit bien la société civile, les jeunes se rebellent, disent non évidemment à cette volonté de détourner la constitution.
Comme ils l'ont dit dans d'autres pays, Burkina Faso par exemple, évidemment l'événement majeur, un des événements majeurs de l'année dernière en Afrique. Je voudrais qu'on reparte un instant en Irak, parce que vous revenez d'Irak, Olivier Weber, ça va intéresser aussi nos auditeurs africains, où le pétrole finance aussi Daesh.
Oui, absolument. Alors, ça fait à peu près une vingtaine, même plus que 20 ans que je me rends en Irak et en Irak du Nord, au Kurdistan. Là, j'y suis retourné effectivement pour un reportage. Et
pour Vanity Fair, on peut le dire.
Pour Vanity Fair, dans le dernier numéro de décembre de Vanity Fair. Et c'est une enquête, en fait, sur le pétrolistan, en fait, les nouvelles ressources pétrolières qu'on a trouvées en Irak. Mais oui, absolument. Et puis, deuxièmement, sur les experts étrangers qui accourent, évidemment, pour essayer de prospecter. On a des amendes d'aventuriers dans l'Eldorado, etc. Tous les coups sont permis. Mais de l'autre côté, donc là, il y a l'Irak et le Kurdistan, qui est un Irak BIS, qui ne dit pas encore son nom, qui est pratiquement indépendant, qui est donc un État dans l'État, pratiquement autonome financièrement et militairement, et qui, d'ailleurs, qui a permis de contrer l'avancée de Daesh au nord, ce que n'a pas pu faire l'armée irakienne de Bagdad. Et puis, deuxièmement, Daesh de l'autre côté de cette ligne de front, il y a Daesh Syrie, Daesh Irak. Et qu'est-ce que fait Daesh? Eh bien, donne la possibilité à des tribus locales, sunnites principalement, évidemment, exclusivement même sunnite, de commercer le pétrole. Donc le pétrole est passé de 100 à 47 dollars le baril sur le prix du marché. Là-bas, Daesh permet aux tribus de faire transiter le pétrole pour 6 à 10, 12 dollars le baril. Donc évidemment, cela lui permet d'avoir une allégeance en fait avec les tribus. Et je pense qu'on n'est pas dans une guerre frontale Daesh contre des éléments extérieurs, l'armée irakienne, l'armée kurde et les puissances occidentales. Il y a au milieu des tribus sunnites. Donc il faut aussi regarder dans ce triangle qu'est-ce qu'on peut faire avec ces tribus sunnites pour justement les faire basculer dans l'autre camp.
Alors coïncidence ou pas, Olivier Weber, il y a aussi du pétrole au Nigeria.
Oui, beaucoup de pétrole au Nigeria, c'est un des grands pays producteurs de l'OPEP, et là, corruption incroyable, y compris d'ailleurs dans le delta du Niger, sur le Nigeria, effectivement.
Le pétrole peut financer aussi, sans doute, Boko Haram.
Le pétrole peut financer indirectement Boko Haram par la corruption, bien sûr, et le trafic d'armes.
Oui. Je voudrais qu'on termine sur une note un peu plus légère dans le livre, dans cette lettre, belle lettre, longue lettre que vous imaginez, Massoud écrivant à son fils. Vous citez un poète perse, Manout Chéri, qui au XIe siècle écrivait ceci: franchis le désert et passe la montagne, brûle les étapes et dévore la route.
Oui, oui, absolument. C'est toute la beauté de la poésie persane et qui est elle aussi très tolérante, soufie pour la concorde entre les peuples et les religions.
Et aller découvrir le monde.
Aller découvrir le monde, ouvrir les yeux, absolument.
Ne pas avoir peur des voisins.
Absolument, surtout pas. Et regarder les voisins aussi, leur tendre la main.
C'est votre philosophie en quelque sorte.
Oui, ouais, absolument. Et j'aimerais serrer encore une fois la main de Lassana Batili, pardon de me rappeler.
Vous l'aimez bien, lui,
moi. J'aime beaucoup.
Vous êtes l'invité.
Et lui, je suis sûr que je lui offrirai d'ailleurs le livre de Manu Chéri. Voilà. Je vais faire ça.
Merci, Olivier.
Merci.
Votre dernier livre en date s'intitule La Confession de Massoud. Ce beau texte publié chez Flammarion. On se prend au jeu, en fait. On a vraiment l'impression que c'est Massoud qui a écrit. Vous avez réussi votre pari.
Ah, merci. Je me suis mis dans sa peau pour mieux parler de ses propos, mais aussi de ses travers, parce qu'il a été frère musulman. Mais j'en ai fait une sorte de héros, de porte-parole, on va dire, de la cause de tolérance dans l'islam et dans les autres religions.
C'est ce qu'on appelle l'islam des Lumières.
L'islam des Lumières, absolument. Il existe encore, il faut le défendre.
Donc il faut le lire, ce texte, et il faut défendre effectivement cette conception, sans doute. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons de Nelson Mandela, mais le Mandela philosophe, selon Jean-Paul Jouary, lui-même philosophe, qui sera notre invité. Il a tiré des enseignements philosophiques de l'action du grand homme, donc de Nelson Mandela. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.